Frères et sœurs, chacun, chacune, c'est toujours une joie de venir vous rencontrer. Et je suis aussi content de voir des nouveaux visages parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les uns les autres. Et c'est beau de voir comment le Seigneur bâtit son Église. Voilà. Et voilà, donc ça nous encourage. Et c'est bien, je vous transmets les salutations de notre assemblée de Cahors. Comme d'habitude, hein, voilà, ils savent que maintenant, le deuxième dimanche du mois, on est parmi vous, ici. Voilà. J'aimerais vous poser la question, êtes-vous des adorateurs? On a loué le Seigneur ce matin, êtes-vous des adorateurs juste le dimanche où il y a des musiciens, ou êtes-vous, avez-vous fait de l'adoration votre mode de vie, votre respiration? Pas seulement le dimanche, mais 7 jours sur 7. Alors, le livre de l'Apocalypse, je poursuis donc mes messages sur le livre de l'Apocalypse, et cet après-midi, ça portera effectivement sur les mêmes chapitres, c'est avant tout un livre d'adoration. Aujourd'hui, on entend Apocalypse, catastrophe, oui, c'est du sérieux, mais c'est avant tout un livre d'adoration qui nous fait lever nos regards vers le Seigneur. Je me reporte au début du livre, chapitre 1, verset 19, que nous avions vu. Chapitre 1, verset 19, je vous lis ce verset. Écris donc, c'est Jésus qui a demandé à l'apôtre Jean, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les choses que tu as vues, les choses que l'apôtre Paul, les gens avaient vues, Jean avait vu le Seigneur Jésus dans toute sa gloire. Il a eu une vision du Seigneur Jésus. Ça, ce sont celles qu'il a vues. Celles qui sont, ce sont les sept églises, la situation de l'église du Seigneur en tout temps, depuis sa création, tant qu'elle existe. L'Église, elle est là, de tout temps. Et les choses qui sont à venir, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui vont arriver. Et ce livre est là pour justement nous rappeler que ce que Dieu dit, eh bien, il le fait, il l'accomplit. Alors, eh bien, je poursuis la lecture avec le chapitre 5. Morel a lu le chapitre 4 tout à l'heure. Et je lis la suite, le chapitre 5, puisque le message va porter sur les deux chapitres. Donc, Apocalypse, chapitre 5. Et vous vous rappelez, donc, la vision du chapitre 4. L'apôtre Jean a été transporté dans le ciel. Il a eu une vision du trône de Dieu. Je poursuis au chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre et ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici. » Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu et par ton sang des hommes de toute nation, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pardon, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as laissé par elle un aperçu, enfin, oui, une vision du ciel, Seigneur, de ton trône. Ta parole est glorieuse et nous voulons, Seigneur, la recevoir. Parce que tu nous l'as mis, tu nous l'as laissé, tu nous as mis à notre portée, veuille être avec nous, Seigneur, nous accompagner et recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur, pour que ta parole agisse dans nos cœurs, à ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, d'après ce texte, il est clair que Dieu a une volonté, qui est que toute la création célèbre sa gloire. Dieu veut que toute sa création célèbre sa gloire du ciel jusqu'à la terre. Du ciel jusqu'à la terre. Et c'est ce qu'on va voir. Hein. Alors, ça peut sembler égoïste, aux yeux de certains du moins. Comment Dieu veut toute la gloire? Et les autres alors? Et les célébrités? D'un point de vue humain, ça peut sembler égoïste. Et d'ailleurs, certains ont même abandonné la foi. Parce qu'il trouvait que Dieu réclame, il reprochait à Dieu de réclamer toute la gloire pour lui seul. Les célébrités en voudraient bien pour eux aussi la gloire. Et John Piper, dans son livre Une gloire particulière, a recueilli un témoignage d'un quelqu'un que vous connaissez, hein, je pense, d'un acteur qui s'appelle Brad Pitt. Et Brad Pitt, il a entendu l'évangile quand il était enfant. Et lui, avec d'autres, sont choqués que Dieu exalte sa propre gloire. Ils étaient choqués de ça. Ils trouvaient qu'il manque d'amour. Ils trouvaient ça égoïste. Et en 2015, Brad Pitt disait qu'il a abandonné la foi qu'il avait étant enfant parce que d'après lui, Dieu dit « Tu dois toujours affirmer que je suis le meilleur. » Il trouvait que ça tournait trop autour de son ego. Ce que Brad Pitt n'avait pas compris, et parfois c'est dur aussi pour nous, pour moi, de le comprendre, en tout cas, mais par la grâce de Dieu. Dieu se révèle et il veut qu'on le voit. Ce que Brad Pitt n'avait pas compris, c'est que seul rendre toute la gloire à Dieu peut nous satisfaire pleinement, peut remplir pleinement notre âme. Pourquoi? Parce que Dieu est notre créateur. Parce que tout homme a été créé à l'image de Dieu. Et Blaise Pascal, donc un philosophe français du XVIIe siècle, a écrit ceci. Blaise Pascal, qui était mathématicien, il était philosophe au XVIIe siècle. Je vous recommande les Pensées de Pascal. C'est son best-seller. Hein. Voici ce qu'il a dit. Je vous le cite. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Je le relis. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. C'est pourquoi Dieu nous appelle à lui rendre toute la gloire. De cette manière, nous aurons notre âme satisfaite. Nous aurons notre vide rempli. L'homme et toute la création, qu'elle soit terrestre ou céleste, existe dans le but de célébrer Dieu, de lui rendre toute la gloire parce qu'il en est digne. Si vous vous demandez pourquoi vous êtes sur terre, eh bien, vous avez été créé. Et si vous vous demandez pourquoi vous avez été créé pour célébrer Dieu, pour lui rendre toute la gloire. C'est la raison de notre existence ici-bas sur terre. Nous avons été créés pour Dieu. Colossiens 1:16, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, je vous propose de voir justement en trois points cette vérité que Dieu veut que toute la création le célèbre, célèbre sa gloire du ciel jusqu'à la terre. Premièrement, nous verrons la gloire de Dieu célébrée au ciel, d'après le texte qu'on a lu. Deuxièmement, nous verrons lorsque le ciel a visité la terre. Et troisièmement, nous verrons la gloire de Dieu et de l'agneau célébrée au ciel et sur la terre. Donc on va faire un chemin ensemble, hein, et on va partir, non pas de la terre, on va partir du ciel. Parce que l'apôtre Jean, la parole de Dieu en tout cas, nous y invite. Une voix demande à l'apôtre Jean, monte ici. Cette voix, c'est celle qui ressemble au son d'une trompette, c'est celle de Jésus lui-même. Chapitre 1, verset 10. C'est celle de Jésus qui appelle l'apôtre Jean à monter au ciel. Et le Saint-Esprit s'empare de Jean, l'apôtre, et il va faire en esprit un voyage extraordinaire au ciel. il est amené à contempler le trône de Dieu, pas moins. Quel privilège, quelle grâce accordée à l'apôtre Jean. Vous vous rappelez, sous l'ancienne alliance, Dieu avait refusé à Moïse, qui demandait de voir sa gloire, il lui avait refusé de voir sa gloire. Je cite Exode 33, verset 20, « Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. » Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Là, l'apôtre Jean est invité à monter dans la présence de Dieu et à le voir de ses yeux. Eh bien, je vous propose de faire ce même voyage. Alors, vous vous demandez peut-être si c'est possible ou pas. Nous avons ici la parole de Dieu qui nous décrit ce que l'apôtre Jean a vu. Eh bien, voyons la gloire de Dieu célébrée au ciel telle que la parole de Dieu nous l'a décrit. En regardant bien ce texte, l'apôtre Jean ne décrit pas Dieu comme il a décrit Jésus au début du livre. Jésus dans toute sa gloire. Un Jésus qu'il n'avait jamais vu. Lui qui avait côtoyé Jésus en chair. Et si vous regardez bien, le mot Dieu n'est pas beaucoup utilisé dans ce passage. Il appelle Dieu celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Et il le décrit différemment de Jésus. Il le décrit avec des formes et des couleurs de pierres précieuses. La jaspe verte, le sardoine rouge, et il le décrit avec un arc-en-ciel, multicolore donc. Un arc-en-ciel qui environne le trône et qui a l'apparence d'une pierre d'émeraude. Alors, on peut juste entendre ce que dit la parole. Un arc-en-ciel qui a l'apparence d'une émeraude. Alors l'arc-en-ciel, c'est rassurant quand même. L'arc-en-ciel, ça rappelle la promesse de Dieu, le signe de sa miséricorde et de sa fidélité à son alliance qu'il avait faite avec la terre après le déluge. Voir Genèse chapitre 9, verset 13. Et autour du trône, je continue la vision, autour du trône sont assis 24 vieillards qui sont couronnés. Alors il y a différentes interprétations, hein. En tout cas celle pour laquelle j'opte, c'est que 24 c'est 12 plus 12, et eh bien ce sont les 12 patriarches de l'ancienne alliance et les 12 apôtres de la nouvelle alliance pour représenter le peuple de Dieu dans son intégralité, c'est-à-dire les juifs, représentés par les patriarches, et les non-juifs. Les apôtres par qui que Jésus a utilisé pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. La vision continue avec 7 lampes qui sont devant le trône. 7 lampes qui sont le Saint-Esprit de Dieu. Et des voix, des éclairs, des coups de tonnerre qui sortent du trône. De quoi faire peur, de quoi effrayer quelqu'un qui est dans cette situation-là. Une agitation, hein, qui pourrait faire peur. Qui pourrait, je dis bien. Une agitation qui pourrait faire peur face à la sainteté de Dieu, mais qui fait contraste avec l'arc-en-ciel, qui rappelle l'alliance de Dieu avec son peuple, et qui fait contraste aussi avec le calme et la pureté d'une apparente mer de verre, semblable à du cristal. Ça évoque le calme, la paix, la sérénité à laquelle nous aspirons. Ce texte est là pour montrer le ciel réconcilié avec la terre. Et nous allons le voir. De par le profond amour de Dieu. La vision continue, avec au milieu et autour du trône, 4 êtres vivants. Alors ces 4 êtres vivants, ce sont des êtres créés. Soyons clairs, parce qu'ils adorent Dieu. Ils adorent celui qui est assis sur le trône. Ces 4 êtres vivants, ils sont remplis Dieu dedans et tout autour. Ils ont chacun 6 ailes et ils sont semblables à un lion, à un veau, un autre qui a un visage d'homme et un autre semblable à un aigle. Alors, on ne peut que s'arrêter à ce qu'on voit. On n'a jamais vu ça sur Terre. On n'a jamais vu ça sur Terre. C'est une telle vision. Donc on peut que recevoir ce que Dieu nous dit de sa parole. C'est une vision pour le moins spectaculaire qui est même difficile à décrire avec des mots humains. Mais ce qui me rassure, c'est que Dieu utilise des mots humains pour décrire son trône, pour nous décrire son trône. Des mots qui sont à notre portée. Ces mots-là, on les comprend. Dieu utilise nos faibles mots. On a chanté tout à l'heure que « Entends mon cœur avec mes faibles mots ». Oui, Dieu, il entend ton cœur. Et Dieu, il utilise nos faibles mots pour décrire son trône. Et puis va commencer la description d'une adoration. C'est un geste d'adoration envers celui qui est assis sur le trône. Et quand on lit ces deux chapitres 4 et 5, on va voir que cette adoration, elle est progressive. Elle va aller crescendo, crescendo, crescendo. Elle va aller progressive, elle va partir du ciel pour aller jusqu'à la terre, jusqu'à son apogée, jusqu'à son apothéose. Parce que Dieu veut que toute la création l'adore, en commençant par le ciel et en allant jusqu'à la terre, par nous. Alors déjà, cette adoration, eh bien, les quatre êtres vivants, il nous a dit qu'ils adorent Dieu jour et nuit. Ils adorent Dieu en permanence. Celui qui est assis sur le trône, comment? Eh bien, ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu trois fois saint. Dans la Bible, il n'est pas dit, le Seigneur est juste, il est amour. Mais vous ne trouvez pas une expression amour, amour, amour. Vous ne trouvez pas une expression juste, juste, juste. La seule expression qui est répétée trois fois, c'est saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Alors la sainteté, ça nous rappelle comment est Dieu. Il est différent de nous. Il est différent de nous. Et ce texte nous le rappelle, n'est-ce pas? C'est une chose qu'on n'a jamais vue. Il est différent de nous. Et pourtant, il veut nous rejoindre. Il veut nous rencontrer. Il veut qu'on soit rassuré en sa présence. Il est différent de nous. Il est parfait, sans faute, ni tâche. Au moment où les quatre êtres vivants adorent Dieu, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », eh bien, au même moment, qu'est-ce qui se passe? Les 24 vieillards se prosternent et adorent Dieu. Et là, il y a une progression. Ils adorent Dieu, non pas à cause de ce qu'il est, Saint, 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 ce qu'ont fait les quatre êtres vivants, mais les 24 vieillards adorent Dieu pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire pour sa création. Autre raison de louer Dieu, pour sa création. Déjà, on peut l'adorer pour qui il est. Et les attributs de Dieu ne manquent pas dans la parole. Il est amour, il est juste, il est saint, saint, saint. Et on peut, autant de raisons pour l'adorer, mais il y en a encore d'autres. On peut adorer Dieu pour sa création, pour sa création. Dieu le Père, on a une vision de Dieu le Père qui se décrit comme étant celui qui est assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles. Il y a le Saint-Esprit qui est devant le trône et il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un au tableau. Vous l'avez compris, il manque qui? Il manque Dieu le Fils. Il manque encore Jésus à ce stade-là. Il manque encore Jésus au tableau. Et à ce stade, l'adoration ne se situe qu'au ciel. Il n'est pas question, il n'est pas fait mention de la terre encore à ce niveau-là. L'adoration se situe au ciel. Une question se pose, est-ce qu'avant que Jésus vienne, est-ce que les hommes pouvaient adorer Dieu? Avant que Jésus ne se manifeste, avant que Dieu ne se manifeste en chair, est-ce que l'homme pouvait adorer Dieu? Eh bien oui, les humains avaient des raisons de rendre gloire à Dieu, à cause de quoi? À cause de sa création, à cause de ce qu'il a créé. Mais, il y a un gros mais, ils ne l'ont pas fait. Les hommes n'ont pas rendu gloire au Dieu créateur. Il ne lui a pas non plus rendu grâce. Et la Bible dit qu'ils sont, je cite, inexcusables. Je vous cite Romains, l'épître de Paul aux Romains, la parole de Dieu. Chapitre 1, versets 18 à 21, je vais le lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Fin de citation. Oui, avant la venue de Jésus, la création est une raison suffisante pour louer le Créateur, pour adorer Dieu. La création, c'est-à-dire le monde végétal, le monde animal, les étoiles, l'océan, et toi et moi, l'homme et la femme. Nous sommes des merveilles de la création, qui témoignent de la sagesse d'un Dieu créateur infiniment grand, avant que Jésus soit venu. Et le passage de Romains que je viens de lire, il écarte l'ignorance comme excuse pour ne pas croire. Montre-moi que Dieu existe et j'y croirai. Tout témoigne de la gloire de Dieu, déjà dans la création. L'Épître aux Romains dit clairement que les hommes connaissent l'évidence d'un Dieu créateur, mais ils ont retenu injustement la vérité captive. Pour quelle raison? Eh bien parce que, dans le cœur, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Leur cœur penchait vers les ténèbres plutôt que la lumière. Je cite l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 19. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Leur cœur était tout entier porté vers le mal, et le nôtre aussi, avant qu'on connaisse le Seigneur. Aujourd'hui, on voit que le mal a grandi, et ça ne s'arrête pas. En comparaison à hier et en comparaison à avant-hier, c'est devenu de pire en pire. Chacun pense le droit d'avoir à agir au gré de son bon plaisir. Et si vous regardez, avant-hier, ce qui était interdit moralement avant-hier est devenu admissible hier. Et aujourd'hui, c'est voté et c'est encouragé légalement, ce qui était interdit avant-hier dans notre société. Pourquoi ? Parce que tout se passe dans notre cœur. La question, c'est qu'est-ce que nous affections le plus ? Qu'est-ce que nous affectionnons le plus ? Où est porté ton cœur? Je prendrai l'exemple de l'apôtre Judas. Judas qui a côtoyé le Seigneur Jésus. Son problème, c'est qu'il préférait l'argent. Il aimait trop l'argent. Il aimait plus l'argent que le Seigneur. Résultat, eh bien, ça l'a amené à mentir, à voler et à trahir son maître et à se pendre. Parce qu'il avait son cœur qui était porté du mauvais côté. Mais Dieu ne veut, dans sa grâce, ne veut pas en rester là. Il veut que tous les hommes l'adorent, que toute sa création l'adore, du ciel jusqu'à la terre. Il veut que tous les hommes l'adorent pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Il veut que l'adoration aille du ciel jusqu'à la terre. Mais alors, comment faire pour susciter notre adoration? Comment s'y est-il pris? Eh bien, voyons mon deuxième point, lorsque le ciel a visité la terre. La vision continue avec quelque chose qui est hors de la création naturelle. Il s'agit d'un livre. Un livre tenu dans la main droite de Dieu. Un livre, à l'époque, les livres, ils ressemblaient pas à ça. C'était des rouleaux. C'était un rouleau qui était scellé de 7 sceaux. Et ce rouleau spécial, il se présentait comme un testament qui était scellé. Ce rouleau, il appartient à Dieu. C'est sa propriété. Il est inviolable. Il ne peut pas être changé. Il est authentique et il se présente sous forme de testament, c'est-à-dire qu'il ne peut être ouvert qu'à la mort du testateur pour exécuter ses dernières volontés. Alors ce rouleau, il a son importance. Croyons-le, ça va s'accomplir. Et il y a des choses qui s'accomplissent déjà. Ce rouleau, eh bien, il contient les jugements de Dieu annoncés sur la création. Le livre continue hein, dans Apocalypse avec les 7 sceaux. Les jugements qui vont s'abattre sur la terre. Ces sceaux vont être ouverts l'un après l'autre. On ne peut ouvrir le 6e qu'après avoir ouvert le 7e, et ainsi de suite. On peut n'ouvrir qu'à l'un après l'autre. Ils vont être ouverts l'un après l'autre avant que le Seigneur ne vienne établir son règne. Et on entend un appel de l'ange. « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» L'ange qui parle d'une voix forte. Réponse: rien, ni personne de la création céleste et terrestre n'est digne d'ouvrir ce livre, ni même de le regarder. Et l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il en pleure, beaucoup. Il pleure beaucoup. Personne ne peut s'octroyer de lui-même le droit, ni le pouvoir de l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Un des anciens vient consoler Jean. L'apôtre Jean, il y en a un qui peut. Seul le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a obtenu de la part de Dieu le pouvoir, la permission d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Il s'agit bien sûr de Jésus, du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Jésus que Jésus voit au centre du trône. Pourquoi Jésus est-il le seul digne d'ouvrir ce livre? Pourquoi? Eh bien parce qu'il a vaincu. Le texte nous dit qu'il a vaincu. Il a vaincu quoi? Comment est-ce qu'il a vaincu? Vous avez remarqué, il y a deux qualificatifs qui s'appliquent à Jésus, qui sont à l'opposé l'un de l'autre. D'abord, Jésus, il est appelé le lion de Juda, et il est aussi appelé l'agneau. immolé. Le lion et l'agneau, ce sont des animaux opposés l'un de l'autre. L'un est fort, le lion, l'autre est faible. Il y en a même un qui mange l'autre, les lions qui mangent des agneaux. Jésus a les deux qualificatifs, il est à la fois le lion et l'agneau. Pourquoi ? Parce que Dieu a montré toute sa grandeur, toute sa force de lion, toute sa puissance. Quand est-ce qu'il a montré toute sa puissance ? Avant cela, il a montré, c'est vrai ce que tu dis, mais avant cela, Dieu a montré toute sa puissance lorsqu'il s'est abaissé, lorsqu'il s'est humilié, lui le Tout-Puissant, le Créateur. Lorsqu'il s'est mis, il a pris la faiblesse d'un agneau soumis totalement à Dieu, jusqu'à être immolé sur la croix pour prendre sur lui la punition de nos péchés. Voilà où est toute la grandeur de Dieu. Ce que Brad Pitt n'avait pas compris. Dieu aurait très bien pu dire, ça suffit, il a tout créé, donc il est digne d'être adoré, oui. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, il a fait. Souvent, les incroyants disent, mais que Dieu descende un peu sur la terre, voir ce qui se passe. Mais Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire pour nous sauver. Dieu a montré toute sa grandeur, toute sa force de lion, quand il s'est humilié jusqu'à devenir l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Voilà où est toute la force, toute la puissance, toute la grandeur de Dieu. Et bien sûr, il a montré sa puissance lorsqu'il est ressuscité et qu'il est remonté au ciel, à la droite de Dieu, qui lui a donné tout pouvoir. Alors peut-être vous vous inquiétez, le monde où va-t-il ? Poutine, on a l'impression qu'il fait beaucoup de tort. Et jusqu'où va-t-il aller ? Et on entend parfois des inquiétudes, mais là, il y en a un qui contrôle tous les événements, qui a reçu tous les pouvoirs. Jésus, l'agneau de Dieu, le lion de Juda, il est le seul à contrôler les événements sur terre. Pas de raison d'avoir peur. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous avez remarqué, l'agneau, il est représenté avec 7 cornes. 7 cornes, ça symbolise sa puissance absolue. Il est l'agneau puissant qui est digne de juger. Et vous avez remarqué les 7 lieux, la description des 7 lieux sur le trône, eh bien, qui sont le Saint-Esprit, qui sonde tout, qui voit tout, tout ce qui se passe sur cette terre. Le Saint-Esprit qui a été envoyé sur cette terre à l'Église. Nous avons le Saint-Esprit. Nous pouvons comprendre les événements qui se passent à la lumière de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Contrairement à un non-croyant, nous pouvons interpréter ce qui se passe. Et autant de raisons de ne pas craindre, parce que Dieu est au contrôle. Jésus, le lion de Juda, est devenu l'agneau immolé pour révéler la gloire du Père par son amour sacrificiel. Et voilà la raison pour laquelle Dieu mérite, il désire d'une part et il mérite l'approbation de tous et il mérite toute la gloire. Si Jésus ne s'était présenté que comme le lion de Juda, on se serait dit, mais il ne prend que les plus forts. On n'oserait même pas venir à lui parce qu'on se sait faible. Et si Jésus ne s'était présenté que comme l'agneau de Dieu, qui aurait envie d'aller vers lui ? Si serviable, aimant, doux, faible, n'ayant pas la force du lion. Non, Jésus est à la fois le lion de Juda dans toute sa force et l'agneau immolé. Et c'est lui seul qui peut combler le vide que chaque être humain, le vide en forme de Dieu que chaque être humain a chez lui, en lui. Alors qu'est-ce qui se passe ? On continue le tableau tel que la Bible nous le décrit. Eh bien, dès que l'agneau prit le livre de la main droite de Dieu, l'adoration continue. L'adoration a fait un pas de plus dans le ciel toujours, dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe ? Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau immolé. L'adoration, elle est portée sur celui qui est assis sur le trône et sur l'agneau immolé. Et ils l'adorent comment ? En chantant un cantique nouveau, un cantique qui a inauguré une ère nouvelle pour l'humanité. Et ça continue, ça ne s'arrête pas là. L'adoration continue comment ? Eh bien, des milliers d'anges, des milliers de milliers, des myriades de myriades, se joignent à l'adoration des 4 êtres vivants et des 24 anciens pour louer l'agneau immolé. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau n'est plus faible. L'agneau a retrouvé la force du lion. Et pour cette raison, il est digne d'être loué. Il est digne de recevoir notre adoration. Là, après le Créateur, c'est le Rédempteur qui est digne d'être loué. Dieu s'est présenté comme le Créateur, celui qui est saint, celui qui a tout créé. C'est pas tout. Il se présente comme le Rédempteur. Autre raison de le louer. Et c'est pas fini. L'adoration, cette fois, elle nous atteint. Elle arrive jusqu'au ciel. Regardez. La terre se joint au ciel et à ce concert de louanges avec ses myriades d'anges pour louer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Pour louer celui qui est assis sur le trône, le Père, et l'agneau, le Fils. Par le Saint-Esprit qui nous a envoyés ici sur terre. Le Saint-Esprit a été déversé sur tous les croyants. Nous pouvons nous joindre à cette adoration. Ciel et terre sont réconciliés. On est dans le déjà et pas encore. Bien sûr que le royaume de Dieu n'est pas encore établi sur terre. Il va venir. Mais déjà, nous pouvons être réconciliés avec Dieu par l'agneau, par Jésus. Dans cette vision, ciel et terre sont réconciliés. Ils sont enfin en communion parfaite et totale. Et le but de Dieu, qui est que toute sa création, du ciel jusqu'à la terre, célèbre ensemble la louange de sa gloire, pour qui il est et ce qu'il a fait, son but sera atteint. N'en doutons pas. Mais aujourd'hui, déjà maintenant, et nous? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, nous pouvons nous joindre à ce concert de louanges qui a lieu en ce moment au ciel. En ce moment au ciel, nous pouvons louer Dieu avec tous ceux. Sur terre, nous pouvons louer Dieu, nous joindre à toute la louange qui est au ciel. Nous pouvons nous joindre à ce concert de louanges célestes et terrestres. Alors, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous voulez monter au ciel comme l'apôtre Jean à l'invitation de Jésus? Alors, je ne vous demande pas d'y répondre. Mais est-ce que vous aimeriez être là? Eh bien, si je vous dis que c'est possible en esprit, c'est possible. Voyons mon troisième point, la gloire de Dieu et de l'agneau célébrée au ciel et sur la terre. Vous avez remarqué comment commence le chapitre 4. Avant de monter au ciel, Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une porte dans le ciel. Jean a eu un accès au trône de Dieu. Nous pouvons avoir accès au trône de Dieu. Nous avons un libre accès au sanctuaire, par la foi, même si nous ne le voyons pas. Par Jésus, parce que c'est lui la porte du ciel. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus dit, « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il est la porte. Il est notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, qui nous représente devant Dieu, nous autres croyants. Alors, eh bien, c'est une invitation à rechercher les choses d'en haut, les choses de Dieu. Si on s'arrête trop, vous savez, à ce qui se passe sur la terre, bien sûr qu'il faut s'informer de l'actualité. On peut être découragé, hein, et les médias en rajoutent. Il y aurait des raisons d'être découragé si on s'arrêtait à ce qu'on entend, à ce qu'on voit sur terre. Réchauffement climatique, guerre en Ukraine, Covid, inflation, et j'en passe. On vit cette période-là. Mais Dieu nous invite à regarder en haut, au ciel, parce que d'abord c'est de là que Jésus va revenir. Comme pour Jean, eh bien, c'est avec une perspective céleste qu'on peut comprendre ce qui se passe sur la terre. Comme pour l'apôtre Jean, c'est avec une vision céleste qu'on peut comprendre ce qui se passe sur la terre. L'apôtre Jean, il a vu de ses propres yeux le trône de Dieu. Nous, c'est pas le cas. Mais peut-être certains se disent, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé être à la place de Jean? Bien, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, nous pouvons contempler la gloire de Dieu, pas encore avec nos yeux, ça viendra, mais comme l'apôtre Jean en esprit. Comment? Vous l'avez dans vos mains. C'est par l'Écriture que Dieu se révèle encore. Vous vous rappelez, Dieu se révèle de trois moyens. Premièrement, il se révèle par sa création. Tout ce qu'il a créé témoigne de la gloire de Dieu. On peut avoir une idée de qui est Dieu en regardant ce qui a été créé. Le ciel, la terre, la végétation, les animaux, et vous et moi. Première manière de Dieu de se révéler, Dieu se révèle par sa création. Deuxième mode de révélation, Dieu se révèle par son Fils. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Et troisième mode de révélation, Dieu se révèle par sa parole. Cette parole qui contient la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous décrit la gloire de Dieu. Cette gloire, je ne vous l'invente pas, je l'ai lue. Et on n'aurait pas pu la connaître sans cette parole. Cette parole, croyons qu'elle renferme la gloire de Dieu en elle-même. La parole de Dieu renferme la gloire de Dieu. Dieu se révèle par sa parole aussi. Cette parole, elle s'authentifie elle-même. Le meilleur interprète de la Bible, c'est la Bible elle-même. Elle s'authentifie elle-même. L'Ancien Testament avait déjà montré une vision similaire du trône de Dieu dans Ézéchiel chapitre 1. Le lion de Juda, c'est pas nouveau. Déjà dans Genèse chapitre 49 verset 9, la tribu de Juda, d'où est issu le Seigneur Jésus, était déjà comparée à un jeune lion. Rien de nouveau. La parole de Dieu s'authentifie par elle-même. Elle est glorieuse. La parole de Dieu, elle est certaine. Elle a annoncé par avance ce qui s'est déjà accompli. Elle annonce par avance ce qui s'accomplira pour garantir les promesses de Dieu. Elle a fait ses preuves, la parole de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies, on peut lui faire confiance. Le livre céleste que l'apôtre Jean aspirait tant à connaître et qui annonce les jugements à venir sur cette terre, eh bien ce livre, il en est question dans le livre de Daniel, du prophète Daniel. En Daniel chapitre 12, verset 4, vers la fin du livre, il est dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Fin de citation. Ce livre que l'apôtre Jean aspirait tant à connaître au point d'en pleurer, eh bien Jésus, de par son sang versé, a été jugé digne de l'ouvrir pour le lui révéler à l'apôtre Jean. Pour nous, Dieu a révélé le contenu de ce livre à l'apôtre Jean pour nous, par celui seul qui est digne de l'ouvrir, c'est-à-dire par l'agneau immolé. Quelle gloire! Alors la question qu'on peut se poser, quelle valeur? Quelle valeur attachez-vous à ce livre? Quelle valeur y attachons-nous? Est-ce que c'est notre livre, notre pain quotidien? Est-ce qu'on est pressé d'en examiner le contenu? Comme l'apôtre Jean. Peut-être vous vous dites, oh, l'Apocalypse, c'est trop compliqué à lire, il y a des visions où on ne comprend pas grand-chose, mais Dieu nous l'a laissé. Pas d'excuses. Ne nous disons pas, moi je ne suis pas assez intelligent pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faudrait des tonnes de commentaires pour comprendre. Non. Non. Pas d'excuses. Pourquoi? Parce que on ne peut comprendre les choses de Dieu que parce qu'il nous a révélé, qu'avec l'aide de celui qui seul a été digne d'ouvrir le livre et les sept sceaux, c'est-à-dire Jésus. Il est l'agneau immolé, il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Allons à lui quand on ne comprend pas sa parole. Nourrissons-nous de sa parole. Il est ressuscité. Gloire à Dieu. Et c'est pas fini. On a d'autres raisons de nous joindre à ce concert de louanges. On a d'autres raisons de glorifier Dieu. Déjà dans nos victoires. J'espère que tu as des victoires dans ta vie, que tu peux les voir entre aujourd'hui et l'année dernière, même des petites victoires. Regardez, lorsque les 24 anciens adorent Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un geste. Ils jettent leur couronne à ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par ce geste, ils reconnaissent que c'est grâce à lui seul qu'ils tiennent cette couronne. C'est pas par leur propre force qu'ils ont obtenu la victoire. Cette couronne leur a été donnée parce que c'est Jésus qui nous a obtenu la victoire à chacun. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rendent toute la gloire à Dieu. La couronne qu'ils ont reçue, ils la remettent aux pieds du Seigneur. S'ils ont pu tenir bon face à l'adversité, si nous pouvons tenir bon face à l'adversité, et nous pouvons, c'est grâce au Seigneur. Oui, tu es digne, Seigneur. Comment adorez-vous Dieu dans votre vie personnelle? Pas seulement le dimanche, mais le lundi quand vous reprenez le travail. C'est pas facile d'être avec des non-croyants si c'est votre cas. Mais si vous êtes là, c'est pas par hasard. C'est pour témoigner, bien sûr, de l'amour de Dieu pour les incroyants. Si Jésus est au centre de votre cœur, l'adoration en jaillira spontanément. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer. Si Jésus est au centre, l'adoration en jaillira spontanément. Et il y a encore une autre raison de louer Dieu. Encore une autre dans ce texte. Regardez. Lorsque les 24 anciens adorent l'agneau immolé, cette fois ils adorent l'agneau immolé, en plus de celui qui est assis sur le trône. L'agneau immolé, il est bien sûr Dieu aussi, Dieu le Fils. Lorsque les 24 anciens adorent l'agneau immolé, ils tiennent chacun une harpe et des coupes d'or. Et il est clairement dit ce que c'est ces coupes d'or. Ces coupes d'or contiennent les prières des saints. Des coupes en or qui contiennent les prières des saints. Alors c'est qui les saints? Là aussi, il ne faut pas se me prendre sur le mot. Dans l'Église catholique, ça ne veut pas dire la même chose que bibliquement. Les saints, ce ne sont pas des êtres parfaits. Ce sont des êtres pardonnés qui ont cru dans le Seigneur Jésus. Les saints, c'est vous et c'est moi. C'est l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage? Les saints, ce sont ceux de toute nation que l'agneau a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des prêtres, on l'a chanté tout à l'heure. Ce passage m'encourage, et j'espère vous aussi, dans votre vie de prière. Toutes vos prières faites au nom du Seigneur Jésus, toutes, elles sont précieuses. Aucune d'elles n'échappe au Seigneur. Elles sont toutes recueillies dans quoi? Toutes vos prières, elles sont recueillies dans des coupes d'or. Elles sont précieuses, vos prières. Elles sont précieuses. Si vous avez l'impression que Dieu ne répond pas, il répondra quand il aura décidé. Mais aucune de vos prières n'est oubliée devant Dieu. Elles sont recueillies dans des coupes d'or. C'est un encouragement à persévérer dans la prière et l'adoration envers Dieu. Oui, Dieu est digne. Il est digne d'être adoré. Je récapitule les quatre raisons, au moins quatre. Il est digne d'être adoré pour ce qu'il est. Trois fois saint. Saint, saint, saint. Juste, amour. Il est digne d'être loué, d'être adoré pour ce qu'il a fait, pour sa création, pour toute sa création, au ciel et sur la terre. Il est digne d'être adoré pour sa rédemption par son Fils. Et il est digne d'être adoré pour sa parole, qui est glorieuse, qui nous a laissé autant de raisons d'adorer Dieu. Dieu fait tout pour sa propre gloire. Son but, c'est que nous le célébrions. Que nous célébrions sa louange, la louange de sa gloire, du ciel jusqu'à la terre ici. Alors nous aussi, nous pouvons nous joindre à cette quadruple adoration qui a lieu en ce moment dans le ciel. C'est possible. Amen. Je vais prier. Oui, Seigneur, quelle gloire, Seigneur, tu as manifestée et quelle grâce tu nous as faite, Seigneur. Quand je pense, Seigneur, de tout ce que tu nous dis, Seigneur, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire pour nous rejoindre, Seigneur, pour te faire connaître à nous, pour que nous t'adorions. Que de raisons de t'adorer, Seigneur. Parce que c'est vrai, tu es saint, tu es différent de nous. Et tu nous as créés à ton image, Seigneur, dans ton caractère. Tu es amour, tu es juste, tu es parfait. Il n'y a pas de mal en toi, tu es lumière. Et Seigneur, gloire à toi aussi pour ta création qui est magnifique, Seigneur. Quand on considère tout ce que tu as fait, de la plus petite fourmi jusqu'à la plus grande étoile, Seigneur, tu es magnifique. Merci aussi, Seigneur, parce que tu ne t'es pas arrêté là. Ça n'a pas suffi aux hommes pour te rendre gloire, alors tu as envoyé ton Fils pour nous sauver, pour te révéler à nous pour qu'on te connaisse, Seigneur. Toi, le lion de Juda, tu t'es fait l'agneau immolé pour nous sauver de nos péchés, en portant la punition de nos péchés à notre place. Et tu es ressuscité. Et tu es digne de régner, tu es digne d'être loué parce que tu nous as laissé ta parole. Alors aide-nous, Seigneur, à apprécier chaque mot de ta parole. Parce qu'elle est glorieuse, Seigneur, elle te présente. Et Seigneur, nous voulons nous attendre aux promesses de ta parole. Trouver le réconfort, la paix dans ta parole, Seigneur, dans les promesses qu'elle renferme. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses et à toi la gloire en Jésus-Christ. Amen.